Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Academy et son émission littéraire. C'est du roman et d'un roman dû au talent de l'académicien Michel Zinc que nous allons feuilleter ensemble aujourd'hui. Ce roman porte pour titre Un portefeuille toulousain et il est publié par les éditions de Fallois. Monsieur Zinc, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Vous avez un talent certain, celui de dérouter vos lecteurs. D'abord, vous êtes médiéviste. Je rappelle que vous tenez au Collège de France la chaire de littérature médiévale et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voilà. Vous siégez avec vos éminents confrères dans la section médiéviste.
Exactement. Je suis académicien des inscriptions et belles-lettres. Je m'avance sur le terrain de la littérature à petits pas tremblants.
Oui, enfin, ce n'est pas votre premier roman. Alors, évidemment, le lecteur s'attend à ce que votre roman se passe pendant la période médiévale. Eh bien, non. Première surprise, parce que tout de même, cette période couvrirait 8 siècles, ça vous laissait un certain choix.
Voilà, mais j'ai écrit des romans médiévaux, mais je prends de l'audace maintenant.
Voilà. Alors, votre roman Un portefeuille toulousain, lui, se passe donc en 1956. On est donc quelques années après la guerre, disons à peine une dizaine d'années. Et je dois dire que vous excellez à rappeler les détails de cette époque. Alors, les voitures...
Ça a été remarqué. Il faut dire quand ça se passe à l'automne 56, et à l'époque, j'avais 11 ans. Donc, un garçon de 11 ans s'intéresse aux voitures.
Voilà, les Panhard.
Mon père avait une Panhard qui était aussi souvent en panne que celle du roman,
Donc, tous ces détails donnent un côté extrêmement vécu, justement, à votre roman. Alors, vous avez une autre manière de dérouter le lecteur, c'est que de chapitre en chapitre, c'est plein de rebondissements. On croit avoir enfin compris, et puis non, finalement, ça n'est pas... C'est comme un roman policier. Alors, vous essayez au roman ?
C'est un petit peu policier, parce qu'il y a tout de même une énigme, et d'autant plus épaisse que... Comme il y a un personnage idiot qui est moi-même, qui ne comprend rien, ce n'est pas lui qu'on peut charger de débrouiller l'énigme.
Alors, il n'est pas tout à fait policier, votre roman, parce qu'il n'y a pas de police. Non, mais tout de même, il y a des choses que l'on sent par rapport à la résistance, à l'occupation. Il y a un mystère, là, autour de ce qui se passait pendant la guerre.
Voilà, c'est cela. Ça se passe à Toulouse, 11 ans après la fin de la guerre. Les souvenirs de la guerre sont encore proches. Et le fait, justement, qu'on retrouve un portefeuille qui peut être compromettant, réveille de vieux souvenirs, de vieux drames.
Et on se demande qui a fait quoi pendant la résistance. Enfin bon, on sent déjà des soupçons.
Exactement, il y a une ombre pèse sur le propriétaire du portefeuille, sur donner le lieu où on l'a trouvé, sur ce qu'il y a dans le portefeuille, sur les personnes qui peuvent être mises en cause. Certaines vivent encore. Sinon, l'un est mort, était collaborateur, a été abattu à la libération, mais sa sœur est un personnage important du roman et porte ce drame comme une croix.
Voilà. Donc tout ça, ça fait que le lecteur est dans une ambiance où l'intrigue de chapitre en chapitre s'épaissit un peu jusqu'à la fin, parce qu'il faut vraiment attendre la fin pour avoir la solution.
Oui, il y a une solution.
Donc on ne la dira pas.
On ne va pas
la dévoiler. Par contre, alors la ville de Toulouse, alors dont vous nous décrivez avec beaucoup de bonheur les ruelles, les vieilles maisons, les cours intérieurs, les escaliers, un peu secrets. Vous avez vécu à Toulouse ?
Voilà, oui, c'est même pour cela que j'ai écrit ce roman. J'ai été professeur à l'université de Toulouse de 76 à 87. Et puis ensuite, quand j'étais à la Sorbonne, mais j'ai fait la navette encore 2 ans. Nous avons habité 13 ans Toulouse, ma famille et moi. Et ça a été un grand déchirement pour tout le monde de quitter Toulouse. Et j'ai, en somme, j'ai liquidé ce passé.
Voilà, en tout cas, rendu hommage à la ville rose.
J'ai rendu hommage à la ville rose, un quartier qui était mon quartier, l'école des Dominicaines qui était celle de mes enfants, le lycée Fermat où ils ont été et ensuite, etc.
Voilà, donc on sent évidemment, comme dans tous les romans, qu'il y a un côté qui est vrai, qui est vécu, puis il y a des personnages qui sont inventés. Voilà, mais on va en reparler. Alors, il y a au moins 2 milieux que vous décrivez excellemment dans ce roman. C'est le milieu des professeurs de lycée. Alors, je dis bien de lycée, c'est-à-dire oui. Ils sont agrégés, mais en même temps, ils ne se sentent pas si reconnus que cela. Oui, alors, ils mériteraient mieux.
C'est le personnage qui est agrégé de grammaire, ça reprend. Ça fait allusion à quelque chose qui est oublié depuis bien longtemps. Moi, j'étais à Toulouse comme jeune professeur d'université, mais mon roman se passe 20 ans avant, donc le statut social d'un professeur au grand lycée de Toulouse vers 1956 devait être à peu près équivalent à celui d'un professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail en 1976, donc je pouvais m'identifier. Mais ce qui se passait en 1956, c'est qu'à l'époque où dans les grands lycées, presque tous les professeurs étaient agrégés en lettres, les agrégés de grammaire enseignaient de la 6e à la 3e incluse. Et les agrégés de lettres classiques, lettres modernes ne comptaient pas à l'époque, enseignaient, peut-être même pas d'agrégation, il n'y avait pas d'agrégation.
Ça n'existait pas.
Enseignaient en seconde et première. Alors mon personnage, donc il veut faire une thèse de littérature du Moyen-Âge, d'autre part, bon, est agrégé de grammaire, enseigne en troisième, et comme c'est un personnage qui est à la fois très content de lui et en même temps
frustré,
subissant toutes sortes d'humiliations de tous côtés, alors il est malheureux d'être en troisième alors que son collègue est professeur de seconde et est agrégé de lettres, d'où de petites querelles pièce de Racine qu'il faut mettre au programme, des petites choses comme ça.
Petites querelles, jalousie, mesquinerie, compétences mal reconnues. Tout ça existe dans ce livre. Ce n'est pas le moindre intérêt, d'ailleurs, de comprendre la vie des professeurs à cette époque.
Tant que j'appuie la reconstituer, mais oui.
Vous l'avez bien connu. Alors, l'autre milieu, vous n'allez pas me dire que là, vous y étiez, mais enfin, vous le décrivez quand même très bien, c'est celui des ecclésiastiques. Les curés, les abbés, même l'évêque de Toulouse.
J'y étais. Bon, je ne suis pas ecclésiastique. Mais lorsque j'habitais Toulouse, donc bon, mes trois enfants ont fait leurs études primaires chez les dominicaines. Ma femme et moi, nous donnions des cours à l'Institut catholique. Nous habitions à côté. Ma femme a même été titulaire, si je puis dire, du poste de professeur de grec à l'Institut catholique de Toulouse. Et bon, il se trouve que nous connaissions beaucoup d'ecclésiastiques. Et surtout, je rends hommage dans ce roman à la figure du cardinal Saliège.
Ça, c'est très important.
Et ce qui est une chose très importante. Alors, le cardinal Saliège était mort depuis longtemps. Il est mort justement en 1956. Mon roman se termine avec les funérailles de
Saliège. Absolument.
Mais il avait laissé un grand souvenir. Et cela m'a beaucoup frappé lorsque je suis arrivé à Toulouse, ville que je ne connaissais pas du tout auparavant. C'est les hasards, il y avait une chaire.
J'ai soutenu
ma thèse, il y avait une chaire de littérature du Moyen-Âge à Toulouse, j'ai été élu, puis voilà. Et que plusieurs personnes, à mon arrivée à Toulouse, me récitaient par cœur cette fameuse lettre pastorale du 23 août 42, sur le souvenir de laquelle mon roman s'ouvre, et qui est une lettre, donc c'était avant l'invasion de la zone sud, et le cardinal Saliège s'indignait des conditions de regroupement des Juifs.
Oui, c'est une des figures de l'Église de l'époque qui a pris position très nettement en faveur des Juifs et dénonçant ce qui se passait. On l'a un peu oublié, donc votre roman a au moins le mérite de nous rappeler.
C'est ça, parce qu'on dit très facilement que l'Église s'est compromise entièrement. Mais Saliège, en 40, comme les autres, a salué l'arrivée de Pétain, ce qui est un peu naturel pour des évêques et des messieurs de cet âge qui avaient connu la séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais il s'est ressaisi, si on peut dire, très vite. Et cette lettre, d'ailleurs, le préfet en avait interdit la lecture, elle a été lue tout de même, a beaucoup marqué à Toulouse. Et les termes en étaient extrêmement bien choisis. Des scènes d'épouvante, ce mot épouvante, sont déroulées dans les camps de Noé, Duré, Sébédou, et ça se terminait, les Juifs sont nos frères, les Juifs sont nos sœurs, un chrétien ne peut pas l'oublier.
Votre roman aurait dû mettre cette lettre en annexe, on va dire, à votre éditeur que pour la prochaine édition, il devrait la mettre en annexe pour que les gens qui ne sont pas de Toulouse, on puisse la lire.
Oui. Mais enfin, j'en cite les personnages essentiels. D'ailleurs, voilà. Mon personnage qui rêve, on ne découvre qu'à la fin lequel est en train de rêver dans le prologue, s'en récite en somme des bouts.
Les passages. Alors, parmi les passages de ce roman, Michel Zinc, un portefeuille toulousain que j'ai le plus apprécié, c'est la montée à Paris, la montée et la descente, parce que minutes en train, c'était pas rien, de votre héros qui prépare sa thèse et qui doit donc rencontrer un professeur, un grand professeur, pour soutenir, pour l'aider à préparer sa thèse et la soutenir. Alors, ces professeurs qu'il rencontre, qui sont tous des médiévistes d'ailleurs, est-ce qu'ils ont existé ou non ?
Oui, ils ont
existé.
Pierre Le Gentil, qui était mon directeur de thèse, Jean Frappier et Félix Lecoy, qui est mon prédécesseur moral, si je peux dire, au Collège de France. Enfin, il a pris, quand Lecoy a pris sa retraite en 73 ou 14, et sa chaire est allée à Pierre Boulez, puisqu'il n'y a pas de continuité des chaires au Collège de France. Mais quand j'ai été élu 20 ans plus tard, il vivait encore, ça a été en partie grâce à lui, et dans son esprit comme dans le mien, il y avait une continuité. Alors oui, mon personnage donc est un peu âgé pour commencer une thèse. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a passé 5 ans en captivité.
Oui, il y a eu la guerre.
Et puis, comme il est à la fois loin et un peu content de lui, il croit qu'il peut se débrouiller tout seul. Il croit avoir trouvé des choses tout seul, sur la littérature du Moyen-Âge. Et en somme, il monte à Paris pour fourguer son sujet de thèse à un directeur possible. Et il se fait chasser de partout. Alors, les trois professeurs ont existé. Le malheur, c'est que c'est là que je me rends compte à quel point je suis vieux, n'est-ce pas ? Il n'y a plus grand monde pour mesurer à quel point mes portraits sont justes. Je peux dire qu'ils sont d'une extrême justesse, mes portraits de ces trois messieurs, que j'aimais tous les trois beaucoup.
Oui, non seulement des messieurs, mais de leur bureau,
leur appartement. Oui, le bureau, Pierre Le Gentil dans son bureau, c'est cela. Et Lecoy dans son bureau du Collège de France, c'est exactement cela aussi. Le Frappier, c'était un petit homme très vif, je l'expédiais un peu vivement. Mais enfin, comme ça, il était un peu soupolé, c'est ça. Oui.
Pas seulement les personnages sont vrais dans votre roman, mais aussi le quartier latin que vous décrivez à ce moment-là, le boulevard Saint-Michel, les bistrots où vous mangez une choucroute, voilà. Je veux dire que tout paraît vrai.
Le balzar. Publicité gratuite, mais enfin, le balzar est une annexe de la Sorbonne, comme je dis et comme chacun sait.
Donc vous prenez un grand plaisir à décrire ces personnages.
Voilà, oui. Non, vous savez, comme ce n'est pas vraiment mon métier, si je ne m'amusais pas en écrivant ce genre de roman, je n'aurais aucune raison de le faire.
Alors, parmi les personnages qui sont évoqués, mais qui ne sont pas justement dans les personnages fictifs, celui-là, je le sais qu'il est vrai, c'est Joseph Bédier. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Parce que c'est tout de même quelqu'un qui a été élu à l'Académie française.
Oui. Alors, Joseph Bédier, donc, était originaire de La Réunion, qui était un normalien de la promotion 1860, par là, a succédé au Collège de France à son maître Gaston Paris, à la mort prématurée de Paris en 1903. Et Bédier avait la caractéristique d'être un homme qui avait un grand savant, mais qui avait aussi un très grand talent littéraire. Et ses ouvrages érudits, les grands livres sur les légendes épiques, sur les fabliaux, ont vieilli d'une certaine façon, ses théories ne sont plus reçues aujourd'hui, mais ils sont extraordinairement intelligents et savants, naturellement, on les lit encore avec grand profit. Mais son adaptation de Tristan et Iseut, qui est une œuvre littéraire à partir des différents poèmes et des différentes sources médiévales. Il a écrit son Tristan et Iseut et ça a été un des best-sellers du XXe siècle. Si on prend sur l'ensemble du XXe siècle la liste des livres qui se sont le mieux vendus en France, eh bien, il y a le Tristan et Iseut de Bédier. Et alors, il s'est passé ceci, que Bédier avait été élu au Collège de France un peu contre l'avis de l'ami et co-directeur de la revue Romania avec Gaston Paris, Paul Meyer, qui aurait voulu un autre, s'appelait Alfred Jean-Roy. Bon. Et Meyer, comme il disait, comme il écrivait, Bédier est bon garçon, mais pas assez philologue à mon gré. Le résultat, c'est que Bédier n'a jamais pu être élu, ensuite il s'en moquait, mais être élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais il a été élu à l'Académie française.
En 1920.
Oui, et en fait, pour de mauvaises raisons. Enfin, de mauvaises raisons, on a bien fait de les lire. Mais pendant la guerre de 14, Bédier s'était laissé aller à écrire une plaquette des choses sur les atrocités allemandes. Vous savez, il y avait toutes ces rumeurs qui couraient sur les atrocités allemandes pendant la guerre. Et ce qu'il a là, la prose nationaliste, voire extrêmement nationaliste de Bédier à ce moment-là, a séduit Barrès, qui lui a dit « Vous serez des 40.
Voilà.
Et effectivement, il est entraîné, ça fait très très bien. Et Bédiette est un homme extraordinairement, enfin d'après ce que j'en sais, séduisant, fin, charmant. C'était beau, d'ailleurs, c'était, on a des photos de lui à tous les âges de la vie. Et c'était un homme d'une extrême élégance, de manière, d'esprit et même d'apparence.
Voilà, donc dans le roman de Michel Zinc, eh bien, on trouve à la fois des personnages inventés et fictifs et des personnages vrais. Ça n'est pas le moindre intérêt que de pouvoir justement les rappeler leur travail, leurs souvenirs.
Bédier n'est pas dans le roman parce qu'il était mort depuis longtemps, 56.
Non, mais
c'est l'admiration de mon personnage. Alors, le pauvre qui dit j'aurais voulu faire une thèse. Et, enfin, j'aurais non pas faire une thèse parce qu'à l'époque, les professeurs du Collège de France ne dirigeaient pas de thèse. Enfin, rencontrer Bédier, mais j'attendais d'être agrégé. Il a eu un petit peu de mal à être agrégé, mon pauvre bonhomme. Alors bon, quand il a été, c'était trop tard. C'était l'année où Bédier est mort.
Alors, Michel Zinc, juste un petit mot. Alors, on l'a déjà dit, mais enfin, vu le titre Un portefeuille toulousain, il est évidemment question d'un portefeuille. Alors, vous avez dit que c'est un portefeuille, vous avez laissé entendre qu'on le trouvait dans un lieu.
Et oui, on le trouve dans un lieu qui
est une maison peu fréquentable.
Je peux le dire, il y a une chartiste avec une coiffure bien décente qui veut agrandir, qui a obtenu l'autorisation d'agrandir son musée qui existe, rue de la Plot, le musée du Puy existe, rue de la Plot, sur l'ancienne maison close. Qui le jouxte. Alors, en réalité, c'est une petite erreur. La maison close était sur le trottoir d'en face. Mais il est exact que cette maison existait et que c'était la maison officielle des Allemands et de la collaboration pendant la guerre. Et pendant les travaux, on trouve ce portefeuille qui est là depuis quelques jours avant la libération de Toulouse et qui contient toutes sortes de secrets ou d'indices troublants.
Voilà. Troublant. Eh bien, troublant mais passionnant, c'est le roman de Michel Zinc, Un portefeuille toulousain. Un roman publié aux éditions de Fallois. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Monsieur Zinc.
Merci à vous.